Sixième partie. Des bisous sur la grande roue. 1. Mardi matin, Hodges est debout à 6 heures. Il se confectionne un solide petit déjeuner. 2 œufs, 4 tranches de bacon, 4 tranches de pain grillé beurré. Il n'a pas faim, mais se force à avaler jusqu'à la dernière bouchée, se disant que c'est du carburant pour son organisme. Peut-être qu'il aura une autre occasion de manger dans la journée, mais rien n'est moins sûr. Sous la douche, et tandis qu'il mastique résolument à la table de la cuisine, personne pour qui contrôler son poids maintenant, une pensée ne cesse de le hanter, la même avec laquelle il est allé se coucher tard hier soir. Combien d'explosifs, bon sang ! Ce qui conduit à d'autres déplaisantes considérations. Comment ce type, le criminel, compte-t-il l'utiliser? Et quand? Il parvient à une décision. C'est aujourd'hui le dernier jour. Il veut traquer Mr. Mercedes lui-même et se confronter à lui. Le tuer? Non, pas ça. Probablement pas ça. Mais lui démolir la gueule, ça oui. Ce serait excellent. Pour Olivia, pour Janet, pour Janice et Patricia Cray. Pour tous les autres que Mr. Mercedes a tués et estropiés l'an dernier au City Center. Des gens prêts à se lever en pleine nuit pour aller attendre debout dans un brouillard glacé couvre les portes d'une foire à l'emploi dans l'espoir fou de décrocher un boulot. Espoir perdu. Vie perdue. Âme perdue. Alors oui, il veut coincer ce salopard. Et s'il n'y arrive pas aujourd'hui, eh bien... il remettra toute l'affaire entre les mains de Pete Huntley et Easy Janes, et tant pis pour les conséquences. Lesquelles pourraient bien impliquer, il en a conscience, une petite peine de prison. Il s'en fout. Il en a déjà gros sur la patate. Mais il suppose qu'il peut en supporter encore davantage. Pas un autre meurtre de masse, cependant. Non, ça foutrait en l'air ce qu'il reste de lui. C'est-à-dire bien peu. Il décide de se donner jusqu'à 8 heures ce soir. C'est la ligne dans le sable à ne pas dépasser. Au cours de ces 13 heures, il peut en accomplir autant que Pete et Easy. Probablement plus, parce qu'il ne sera pas entravé par la routine et les procédures. Aujourd'hui, il aura sur lui son Colt M&P 38 et son Happy Slapper aussi. Le slapper rejoint la poche avant droite de son veston, le revolver son aisselle gauche. Dans son bureau, il attrape son dossier Mercedes, plutôt épais maintenant, et l'emporte à la cuisine. Pendant qu'il le relie de A à Z, il allume d'un coup de zapette la télé posée sur le comptoir pour se caler sur le journal Morning at 7 sur Channel 6. Il est presque soulagé de découvrir qu'une grue s'est renversée au bord du lac, coulant à moitié une péniche chargée de produits chimiques. Il ne tient pas à ce que le lac soit plus pollué qu'il ne l'est déjà, à supposer que ce soit possible, mais l'accident a relégué au second plan l'histoire de la voiture piégée. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il est identifié comme l'inspecteur principal, désormais retraité, chargé de l'enquête sur le massacre du City Center, et la femme tuée dans l'attentat est quant à elle identifiée comme la sœur d'Olivia Trelawney. On montre même une photo, prise par Dieu sait qui, de Janet et lui devant les pompes funèbres Soames. La police ne se prononce pas sur un lien éventuel avec l'attentat du City Center de l'an dernier, annonce gravement le présentateur, mais il convient de souligner que l'auteur de ce crime n'a toujours pas été retrouvé. Toujours dans les affaires criminelles, Donald Davis devrait être inculpé. Hodges n'a plus rien à foutre de Donald Davis maintenant. Il coupe le sifflet à la télé, et retourne au contenu de son bloc-notes à feuilles jaunes. Il est encore en train de le relire quand le téléphone sonne. Pas son portable, même s'il l'a sur lui aujourd'hui, mais le fixe accroché au mur. C'est Pete Huntley. « T'es levé aux aurores ?» remarque Pete. « Bon boulot de détective. En quoi puis-je t'être utile ?»« On a eu une entrevue intéressante hier, avec Henry C. Royce et Charlotte Gibney. Tu sais l'oncle et la tante de Janelle Patterson ?» Hodges attend la suite. La tante surtout nous a bluffé. Elle pense, comme Izzy, que toi et Patterson étiez plus que de vagues connaissances, que vous étiez d'excellents amis. Viens-en au fait, Pete. Que vous faisiez le truc? La bête à deux dos? Des galipettes? La culbute? La danse à l'horizon? Ça va, je crois que j'ai pigé. Laisse-moi te dire une chose sur Tante Charlotte, ok? Si elle voyait une photo de Justin Bieber avec la reine d'Angleterre, elle te dirait que le Bib se tape la vieille. Ça se voit dans leurs yeux qu'elle te dirait. Donc, tu te la tapais pas? Non. J'accepte ça en guise de préliminaire, au nom de l'amitié. Mais j'ai quand même bien envie de savoir ce que tu nous caches, parce que ça pue. Lis sur mes lèvres. Je vous cache rien. Silence au bout du fil. Pete attend que Hodges se sente mal à l'aise et parle, oubliant momentanément qui lui a appris cette astuce. Il laisse finalement tomber. « Je crois que t'es en train de creuser ton trou, Billy. Mon conseil, lâche l'appel avant d'être descendu trop profond pour remonter. » »« Merci, collègue. Toujours bon de recevoir des leçons de vie à 7h15 du matin. » »« Je veux t'interroger à nouveau cet après-midi. Et cette fois-ci, je devrais peut-être te lire tes droits. » »« Ces droits constitutionnels, voilà ce qu'il veut dire. » »« Je serai content de passer. Appelle-moi sur mon portable. » »«
Ah ouais? Depuis que t'es retraité, tu l'as jamais sur toi ?»«
Aujourd'hui, je l'ai. » »« Exact. Parce que durant les 12 ou 14 heures à venir, il ne sera absolument plus retraité. » Il met fin à la communication et reprend ses notes, humectant le bout de son index chaque fois qu'il tourne une page. Il entoure un nom, Radney Peoples, le type de chez Vigilant Guard Service à qui il a parlé à Sugar Heights. Si Peoples fait son boulot au moins à moitié, il pourrait détenir la clé menant à Mr. Mercedes. Mais il y a peu de chances que Peoples ait oublié Hodges, surtout après la façon dont Hodges lui est rentré dans le lard pour qu'il décline son identité avant de le questionner. Et Peoples saura que Hodges est au centre de l'actualité. Bon, il a encore le temps de trouver un subterfuge. Il ne veut pas appeler Vigilant avant les heures ouvrables. Il veut que ça passe pour une simple démarche de routine. L'appel suivant, sur son portable cette fois, est de Tante Charlotte. Hodges n'est pas surpris de l'entendre, ce qui ne veut pas dire qu'il est ravi.
« Je suis aux abois !» s'écrie-t-elle. « Vous devez m'aider, Monsieur Hodges. Que dois-je faire ?»«
À propos de quoi ?»«
Le corps ! Le corps de Janelle ! Je ne sais même pas où il se trouve !»
Hodges entend un bip et vérifie le numéro d'appel en attente. « Madame Gibney, excusez-moi, j'ai un autre appel urgent. »
« Pourquoi ne pouvez-vous pas ?»«
Écoutez, Jeanne n'ira pas plus loin, alors patientez. Je vous rappelle. » Il coupe la communication au milieu d'un glapissement de protestation et prend l'appel de Jérôme.
« Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un chauffeur aujourd'hui, » lui dit Jérôme, « vu l'état actuel des choses. »
Un instant, Hodges ne pige pas, puis il se souvient que sa Toyota a été réduite en fragments carbonisés. Ce qu'il en reste est actuellement sous la garde du service médico-légal de la police, où, un peu plus tard dans la journée, des spécialistes en blouse blanche l'examineront pour déterminer quel type d'explosif a été utilisé pour la pulvériser. Il a pris un taxi hier soir pour rentrer chez lui. Oui, il aura besoin d'une bagnole. Et il s'avise que Jérôme pourra aussi lui être utile autrement.
« Ça pourrait être pas mal, » lui dit-il. « Mais t'es court ? » ?»«
Je suis un lycéen modèle. » lui explique Jérôme patiemment. « J'ai une super moyenne. Je fais du bénévolat pour Citizen United. J'assure l'animation d'un atelier informatique pour des jeunes en difficulté. Alors je peux bien me permettre de sécher une journée. Et j'ai déjà négocié avec mes parents. Ils m'ont juste dit de vous demander si quelqu'un d'autre allait essayer de vous faire exploser. »
« Ce n'est pas exclu, en fait. »
« Ne quittez pas. »
En sourdine, Hodges entend Jérôme lancer.
« Il dit que personne va essayer. »
En dépit de tout, Hodges ne peut s'empêcher de sourire.
« J'arrive en quatrième vitesse, » annonce Jérôme.
« Ne va pas commettre une infraction. 9 heures, ce sera bien. Profite de ce temps pour peaufiner tes talents d'acteur. »
« Ah oui ? Quel rôle je vais devoir jouer ?»«
Assistant juridique, » répond Hodges. « Et merci, Jérôme. »
Il raccroche, va dans son bureau, allume son ordinateur et recherche un avocat nommé Schron. C'est un nom peu commun, et il le trouve sans difficulté. Il note la raison sociale de son cabinet et le prénom de Schron, qui se trouve être George.
puis il retourne à la cuisine appeler Tante Charlotte.
« Hodges, » annonce-t-il, « je suis à vous. »
« Je n'apprécie guère qu'on me raccroche au nez, Monsieur Hodges. »«
Je n'apprécie guère que vous racontiez à mon ancien coéquipier que je baisais avec votre nièce. »
Il entend un hoquet outragé, suivi d'un silence. Il espère presque qu'elle va raccrocher. Comme elle ne le fait pas, il lui dit ce qu'elle a besoin de savoir.
Les restes de Jeannet seront déposés à la morgue de Huron County. Vous ne pourrez pas en disposer aujourd'hui, ni demain non plus, probablement. Une autopsie doit être pratiquée. Ce qui est absurde, je vous le concède, puisque nous connaissons la cause du décès, mais c'est le protocole.
Vous ne comprenez pas. J'ai un avion à prendre, moi.
Hodges regarde par la fenêtre de sa cuisine et compte lentement jusqu'à 5.
Monsieur Hodges, vous êtes toujours là?
De mon point de vue, vous avez deux possibilités, Madame Gibney. La première, c'est de rester ici et de faire les choses en bonne et due forme. La seconde, c'est de laisser la ville s'en charger, de prendre l'avion et de rentrer chez vous.
Tante Charlotte commence à récriminer.
J'ai bien vu comment vous la regardiez et comment elle vous regardait. Je n'ai fait que répondre aux questions de cette femme policier.
Et avec grande alacrité, je n'en doute pas.
Avec quoi ?
Il soupire.
Oublions ça. Je vous suggère à vous et votre frère de vous présenter en personne à la morgue. N'appelez pas pour vous annoncer. Allez-y. Demandez à parler au docteur Galworthy. Si Galworthy n'est pas là, vous parlerez au docteur Patel. Si vous leur demandez en personne d'accélérer les procédures, et si vous parvenez à le faire aimablement, ils seront aussi obligeants que possible. Présentez-vous de ma part. Je les connais tous les deux depuis au moins 20 ans.
Pour ça, il faudrait que nous laissions de nouveau Holly toute seule, dit Charlotte. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle tape comme un démon sur le clavier de son ordinateur portable et ne veut plus sortir.
Hodges se surprend en train de tirer sur ses cheveux et s'intime de cesser.
« Quel âge a votre fille ?»
Un long silence.
« 45 ans. »
« Alors je pense qu'on ne vous inculpera pas si vous ne faites pas venir une babysitter. »
Il essaie de retenir ce qui lui brûle les lèvres et y renonce.
« Pensez à l'argent que vous allez économiser. »
« Je n'attends pas de vous que vous compreniez la situation de Holly, Monsieur Hodges. Non seulement ma fille est mentalement déséquilibrée, mais elle est très sensible. »
Hodges se dit, ce qui doit faire de vous quelqu'un de particulièrement éprouvant pour elle. Cette fois, il se contient.
« Monsieur Hodges ?»«
Je vous écoute. »«
Vous ne sauriez pas si Janelle a laissé un testament par hasard ?»
Il raccroche.